Pop-pop-pien et tous les autres aussi, bonjour. C'est vendredi, c'est podcasty. Ah, vous commencez à la connaître, hein, cette petite formule qui fleure bon le ravioli. Vous tous qui savez bien que la vie n'est pas un fleuve, un long fleuve tranquille. Surtout si vous aviez l'intention de prendre le train aujourd'hui. Et oui, le vendredi, c'est le jour où votre bon vieux pop-pop-pop se transforme en pop-pop-podcast. Aussi naturellement qu'un serpent de mer se transforme en arlésienne. Même si, bien sûr, toutes les arlésiennes ne sauraient être comparées à des serpents de mer. C'est le jour où nous vous emmenons folâtrer dans les vertes prairie du podcast, où chaque jour pratiquement éclosent de nouvelles fleurs qui n'attendent que vos oreilles pour suivre le conseil biblique, croître encore et se multiplier. Et nous sommes là pour vous aider à composer le bouquet idéal dans cette opulente végétation. Aujourd'hui, un sujet particulièrement d'actualité en cette période d'agape menaçante, en particulier pour le foie, la gastronomie, l'art de se nourrir, le fooding comme ils disent. Et nous allons en parler avec Émilie Lestari qui anime tous les mercredis le podcast Bouffon qui, comme son nom l'indique, est une invitation à nous mettre à table. Aujourd'hui, c'est donc à son tour de passer aux aveux. Pop-pop podcast, épisode 15, c'est parti.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine de Gaulle.
Bonjour Émilie Lestari.
Bonjour Antoine.
Et bienvenue dans Pop-up Podcast. Alors yes. Avant toute chose évidemment, c'est le rituel, arrivez-vous à prononcer le nom de cette émission.
Pop-up Podcast.
Bravo ! Première tentative, premier essai, transformé, félicitations Émilie. Alors on continue. Je mets mon tablier car ensemble nous allons parler de Bouffon. Alors Bouffon ce n'est pas un podcast sur les insultes, ni le fou du roi, mais sur ce qui se passe dans nos assiettes, ce que nous bouffons. Donc d'où est venue l'idée de ce titre Émilie ?
Alors c'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est un titre qui a l'avantage d'être amusant, d'avoir un petit jeu de mots. Alors bien sûr, faut pas oublier le S au bout.
Bien sûr, bah oui.
Voilà. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois qu'on oublie lors d'une programmation, qu'on oublie le S lors d'un événement, et c'est du coup le titre c'était Bouffon en live. Donc, j'avais vraiment l'impression d'être la personne qui allait venir avec
les grelots,
les petits grelots,
les petits grelots, bling bling. Ce qui n'est pas du tout le cas.
Non,
c'est... D'accord. Bon, voilà. La notion de dégustation était déjà prise par une grande radio nationale dont le nom commence par « fr » et se termine par « terre ». C'est pour ça que vous avez pris Bouffon ?
Voilà, c'est ça.
C'est ça, hein ? Bon, messieurs d'émission, on déguste aussi énormément. Alors, de quoi nos assiettes sont-elles les métaphores ? Qu'est-ce que la cuisine dit de nous et de notre époque ? Voilà les questions que vous vous posez chaque mercredi avec un ou plusieurs invités. Bouffon avec un S au bout, donc, c'est une discussion qui donne fin tout en donnant à réfléchir, dites-vous.
Oui, c'est ça, c'est l'objectif. En fait, ce qu'on trouve de passionnant chez Nouvelles Écoutes avec l'acte de manger, c'est d'abord que c'est un acte super banal. C'est quelque chose que l'on fait plusieurs fois par jour assez d'énergie. Et en fait, malgré les rythmes de vie qu'on peut tous avoir, les différences, les convictions aussi, finalement, manger, c'est un acte qui nous rassemble. Et à travers cette incroyable banalité qui est le fait de se nourrir, on peut dire beaucoup de choses. Et nous, on utilise vraiment cet acte comme une loupe, en fait, finalement, pour analyser des faits de société.
Donc c'est un podcast qui nourrit à la fois le corps et l'esprit, si j'ai bien compris.
C'est tout à fait l'objectif du menu, oui.
Ce qui n'est pas le cas de tous les podcasts. Ce podcast, nous allons le picorer ensemble dans la suite de Pop-up Podcast, avec Charline Roux, qui nous rejoindra juste après l'entrée. Je vous propose une fricassée de métronomie saupoudrée de l'artiste franco-coréenne Spiltab.
Sucker for the evenings and the seasons, and every touch that stays between. vows. You're reaching farther now than I have ever known. And I'm a sucker for the evening.
Métronomie et Spiltab, c'était le morceau Uneasy, et c'est sur ce son que Charline Roux, serviette fermement nouée autour du cou, les couverts à la main, vient de faire son entrée. Entrée, un mot qui a du sens dans cette émission spéciale food, nourriture. Bonjour Charline.
Bonjour, c'est un bavoir.
Pardon, je n'avais pas remarqué. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Ah, ma maman. Charline, je vous présente Émilie Lestari, la créatrice du podcast Bouffon. Et Bouffon, je rappelle, ce n'est pas une insulte. Alors, je bouffe, tu bouffes, il, elle bouffe, nous bouffons. Après la conjugaison, que pouvez-vous nous dire du podcast, Charline ?
Qu'il s'agit de conversations éclairées et éclairantes autour de l'alimentation au sens large, des programmes monomaniaques sur des ingrédients comme la coriandre, par exemple, sur un mets, les frites, devenus faits de société tuchie en cette période, hein, des apéros devenus phénomènes, le spritz, des lieux, le futur resto de la prison des Baumettes, des questions. Alors, on partage, la réponse étant bien sûr non, parce que Joey does not share food. Le tout en compagnie d'experts, d'expertes, chefs, professionnels, passionnés, mais aussi de sociologues. Et ça, ce ne sont que quelques-uns des sujets récents. Est-ce que la bouffe, c'est un réservoir de sujets inépuisables ?
Complètement. En fait, ce qui est incroyable, c'est que parfois, on termine une année, on termine une saison en se disant, bon, bah là, on a quand même couvert pas mal de choses. Et en fait, il y a toujours des nouvelles problématiques qui arrivent. Là, par exemple, dernièrement, on a parlé des dark kitchens et de leur grand déploiement dans beaucoup de villes. On a pu parler aussi du scandale du chlordécone, qui est le pesticide qui a été massivement utilisé dans les Antilles. Donc, en fait, très régulièrement, quand on fait des détours par l'histoire et qu'on regarde aujourd'hui les conséquences que ça peut avoir, on tombe sur vraiment beaucoup de problématiques possibles.
Mmh. Alors, question préalable mais nécessaire, quel genre de mangeuse êtes-vous ?
Alors, pendant très longtemps, j'ignorais que j'étais à ce point gourmande, mais en fait, prenant un petit peu mon indépendance plus tard, j'ai remarqué qu'en fait, la nourriture, c'est un fil conducteur très important de mon quotidien. Je suis d'origine vietnamienne aussi, et donc en fait, mes parents communiquent beaucoup leur amour à travers la nourriture. Mmh. Au Vietnam, par exemple, quand on croise quelqu'un dans la rue, on ne demande pas forcément « quel temps fait-il ?» C'est pas forcément ça la phrase pour briser la glace. On demande « An Thieu, est-ce que vous avez déjà mangé ?» Vous en êtes où, en gros, dans votre journée par rapport à l'alimentation ? Et je pense que tout ça, mine de rien, ça a probablement nourri un petit peu la mangeuse que je suis aujourd'hui. Je trouvais ça complètement banal avant, et aujourd'hui, je réalise que ça a en vérité complètement forgé ma manière d'avoir un coup de fourchette.
Ça fait un point commun quand même entre la France et le Vietnam, parce que nous, on passe notre temps à parler de bouffe.
C'est vrai.
Et surtout quand on est à table.
C'est ça, exactement. Ouais. La bouche pleine, on en parle.
Bon, Bouffon, Émilie Lestari, c'est un podcast de nouvelles écoutes que vous animez avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Mathilde Jeunin. Mise en bouche.
Ah, les frites. Mais qui n'aime pas les frites ? C'était loin d'être les meilleures, mais je me souviendrai toujours des frites du mercredi midi à la cantine. Un événement récurrent qui venait scinder la semaine en deux quand on était au lycée. Les frites, c'est aussi pour moi ma mère qui met son manteau pour courageusement aller les cuire dans le froid parfois, sous le haut vent à l'entrée du jardin, pour éviter de laisser l'odeur de la friture se répandre partout dans la maison. Ou encore les frites des baraques à frites, servies dans un cornet en papier, toujours avec du ketchup et de la mayo me concernant. Les frites, c'est encore aujourd'hui parfois l'accompagnement qui me fait choisir un plat plutôt qu'un autre dans un bistrot.
Et bien sûr, la sauce samouraï, j'en ai l'eau à la bouche. Alors, extrait de l'épisode Frites from Desire, consacré donc aux frites. Frites from Desire, ce titre vient évidemment de la pop culture et de Gala en particulier. Mais pourquoi avoir choisi Frites from Desire plutôt que I want to break frites? N'aimez pas Queen?
Ça aurait pu être ça aussi,
ah oui,
mais ouais.
Alors justement, en parlant des titres des épisodes, on a Spritz et Tula, Miso accompli, Tu huiles ou tu beurres, Tofu de toi, et donc Frites from Desire. Ce sont vos trouvailles ?
Alors non, c'est toujours un travail d'équipe au sein de Nouvelles Écoutes. On a notamment une titreuse très très forte, une personne qui ne fait pas que ça, mais qui est très forte en titre, qui s'appelle Ashley Tola. Et puis non, en fait, c'est ça, on s'assoit autour d'une table et on essaye de, dans un ping-pong de mots, essayer de voir le titre qui va pouvoir le mieux parler.
Vos origines aussi lilloises ont-elles quelque chose à voir dans cette affaire de frites, Émilie ? Et si oui, n'est-il pas abusé de parler là de conflit d'intérêts ou plutôt de conflit d'intérêts ? Est-ce que nous parlons de conflit ?
C'est
amusant.
Pas mal du tout. Oui, je pense qu'on parle souvent de... C'est important de savoir où on se situe pour comprendre aussi les sujets qu'on propose. Et donc, c'est sûr que les frites, le Nord, voilà, c'est quelque chose qui a toujours été là dans mon enfance.
Je me permets une petite parenthèse. Vous avez essayé les bonnes baraques à frites de Lille, Roubaix, la région là-bas. Vous en avez une à me recommander ? Parce que je suis fou de frites. Moi. Je suis fou de frites. Les frites
Alors,
me rendent
j'aime
fou.
Beaucoup les frites qu'on peut trouver à Bruxelles. Mmh. En général, j'ai mes habitudes à la friterie Flagey, en fait, de la place Flagey. Mmh. Et puis tout simplement, j'aime beaucoup les frites proposées à Lille par Florent Laden, qui a vraiment masterisé l'art des frites avec cet art de la double cuisson,
la double cuisson.
À point.
Oui, dit Charline, qui a évidemment goûté.
Non, mais parce que justement, cet épisode sur les frites, c'est l'occasion d'entendre l'excellent Florent Laden, qui est cuisinier du Nord, et de trancher, de fait, sur l'origine des frites. Il y en a qui vont encore avoir le seum, si je peux me permettre. Comment est-ce que vous les castez, vos intervenants ? Est-ce que c'est le sujet qui fait le larron ou au contraire, vous avez une idée de personne à qui vous avez envie d'aller parler et vous déterminez le...
Souvent, on commence par avoir le sujet. Ouais. Et puis ensuite, le travail des programmatrices, c'est de scanner Internet, plein de bibliographies pour trouver la bonne personne pour venir nous parler d'un sujet. Alors, ce qu'on trouve aussi intéressant, c'est de parfois tendre le micro à des personnes moins attendues ou alors à des chefs reconnus, mais sur un sujet qui peut-être est un sujet sur lequel on les a moins interviewés. Donc, c'est vraiment ce petit décalage qu'on souhaite proposer. En France, ce qui est intéressant, c'est de savoir que la gastronomie fait partie quand même... c'est un patrimoine culturel immatériel reconnu par l'UNESCO depuis 2010. Et du coup, ce qu'on a à cœur de faire avec Bouffon, c'est pas simplement de parler des ingrédients ou d'un mercato des chefs, mais au contraire de parler de tout ce qu'il y a autour. Donc finalement, disons que c'est l'occasion de parler à des sociologues, des universitaires et de prendre ça comme un prétexte en fait, un cheval de Troie pour parler de faits de société.
Pardonnez-moi, c'est un peu personnel, mais je reviens encore sur les frites. Citation, existe-t-il un mets plus fédérateur que les frites, croustillantes, dorées, savoureuses, à plonger dans une sauce, à piquer dans l'assiette du voisin? Tout le monde a des souvenirs heureux associés aux frites. Fin de citation. Voilà ce que nous pouvons entendre dans ce podcast spécial frites. Cette accroche, qui sonne un peu comme un reportage d'M6, est assez éloignée de votre podcast. Comment définiriez-vous votre pâte, Émilie? Et je ne parle pas de panzani.
C'est excellent, il y a également celle-là.
Oui, c'est pas ce que j'ai aujourd'hui. Alors, comment définiriez-vous cette pâte?
Ce qui me fascine, c'est les food studies, en fait. Donc, c'est comment, en fait, la nourriture peut être un moyen de parler d'inégalité sociale, parler d'identité, de terroir, du rapport local-global. Et donc, du coup, je pense que c'est peut-être ça... Comme ça qu'on pourrait résumer l'ambition de Bouffon, c'est parler de tous ces sujets, mais sans avoir l'air d'en parler, en fait. C'est parfois des sujets qui peuvent être graves, complexes, compliqués. Et en fait, ce qui est bien, c'est que la nourriture, elle permet ni vu ni connu d'aborder ces différents thèmes.
Votre pâte, je dirais, c'est votre implication. C'est-à-dire que c'est parfois la carte perso, par exemple, dans cet épisode toujours consacré aux frites. Vous expliquez que c'est votre réconfort immédiat en cas de coup de moins bien.
Oui.
Il y a toujours quelque chose de vous.
C'est vrai. Il y a toujours quelques petits éléments, évidemment, de mes expériences. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment donner la parole aux invités. Je crois que le pouvoir du micro aussi, dans le cadre du podcast, c'est ça qui permet. C'est que parfois, on peut être intimidé quand on est interviewé à la télé. Parfois, on peut l'être aussi quand on l'est à la radio. Mm-hmm. Le podcast, finalement, ce qu'on promet aux gens quand on les interviewe, c'est que éventuellement, il peut y avoir un montage, en fait.
Oui,
donc,
oui.
S'ils hésitent sur un truc, un mot, qu'ils veulent se reprendre, on est là, on a le temps et on est là pour vraiment porter leur idée jusqu'au bout, jusqu'aux oreilles de nos auditeurs et auditrices.
Et puis Bouffon, vous le disiez, c'est un exercice de démocratisation. On ne traite pas forcément des cuisines de palace. C'est désormais le cas de pas mal de programmes à ce sujet. C'est vrai que la cuisine s'est démocratisée. Il y a énormément d'émissions, de programmes, de journaux. C'est ça l'idée, décloisonner. Comment est-ce qu'on fait la différence ?
Comment on fait la différence entre
par rapport aux autres programmes qui promettent aussi ce genre de choses, de décloisonner la cuisine, de démocratiser, d'entrer chez les gens presque, parfois.
Alors, je pense que vraiment, on a toujours en tête que cette émission doit parler aux gens qui n'aiment pas forcément cuisiner chez eux ou ne prennent pas forcément plaisir à aller au restaurant. C'est pas leur poste de dépense, en fait. Et c'est un peu ça le pari, c'est de leur dire, mais vous mangez, vous graillez, vous sustentez, vous dévorez, ou peut-être tout simplement vous avez un rapport à l'alimentation qui est pas méga heureux et spontané, mais juste contraint et voilà. Mais n'empêche que vous mangez pour survivre. Mmh. Et du coup, c'est ce fil-là qu'on va essayer de tirer. Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand on me dit, quand un ami qui n'aime pas spécialement manger va me dire, j'ai adoré l'épisode qui parle des paradis artificiels et des marins. Parce qu'en fait, on va parler du coup de la situation des marins qui, quand ils pêchent des bandes d'or, qui c'est une prise en fait qui vaut plusieurs milliers d'euros. Ils ont une libération de dopamine qui se rapproche en fait de ce qu'ils ressentent au casino. Et du coup, pour pallier un petit peu le retour sur la terre ferme en termes de bonheur, d'euphorie, ils prennent des drogues. Et donc en fait, voilà, l'alimentation, ça peut être vraiment tout ça à la fois en fait, en parler.
Émilie, vous êtes journaliste et avant de parler de nourriture dans Bouffon, vous avez parlé de tout un tas d'autres choses dans Le Parisien, Vice, les Inrecuptibles, RTL.fr, Mediapart, Mademoiselle.com, Technicart, Le Monde Diplomatique ou encore Okapi. Quand et comment avez-vous su que vous vouliez parler de cuisine, que c'était votre sujet ?
Tout simplement parce que quand j'étais dans des rubriques qui traitaient de l'environnement, ça m'intéressait souvent de prendre des sujets liés, par exemple, à la culture, à l'élevage plutôt des saumons. Et j'avais toujours, à chaque fois, cette idée de proposer des sujets qui parlent d'alimentation, mais pas forcément directement de ce que ça veut dire socialement et sociétalement. Et je pense que progressivement, quelles que soient ces différentes rubriques dans lesquelles je suis passée, parfois des rubriques aussi de culturelles, musicales, c'était toujours l'alimentation qui était en toile de fond. Mmh. Et à un moment, j'ai fini par me dire, en fait, peut-être qu'il faut prendre à bras le corps cette passion.
Alors, question purement technique, mais comment passe-t-on du monde diplomatique à Okapi et inversement?
Alors, c'était mon premier stage, un stage au monde diplomatique. Ça m'a appris beaucoup de rigueur. Et puis, finalement, un deuxième stage chez Vice, cette fois-ci, m'a appris à détricoter peut-être un rigorisme que j'avais aussi appris. Donc, toujours bien d'être nourri de différentes expériences.
D'accord. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est l'heure de passer à table, car chaque vendredi dans Pop Podcast, Charline Roux, ici présente, passe tous les podcasts du moment dans son mixeur de pop culture. Nous allons continuer dans quelques instants à parler avec vous, Émilie. Ne vous inquiétez pas de Bouffon, de ce podcast Bouffon. Et là, pour l'instant, ça s'appelle le Popcast. Dépêchons-nous parce que ça va être froid.
Le Popcast.
Pas de ce jingle.
Fourni par 2 heures de perdu, faut-il le rappeler.
Magnifique.
Et on commence par un podcast qui parle de cinéma une année à la fois.
I watched sea beams glitter in the dark. Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Année Lumière, un podcast imaginé et animé par Thibaut Gomez-Léal qui chaque mois analyse une année ciné choisie entre 1895 et 2021 avec un invité, érudit et détendu. J'ai évidemment choisi l'année qui correspond à votre année de naissance, Antoine, soit 1976.
Bravo.
Commenté dans cet épisode par le journaliste Philippe Gage, l'année de Rocky, de Marathon Man, l'année de l'arrivée du Steadicam, en très rapide un système de stabilisation de l'image mis en œuvre dans ces deux films, l'année d'assaut de Carpenter, mais pas que. C'est aussi une grande année pour Jean Rochefort, César du meilleur acteur dans un second rôle dans Que la fête commence de Tavernier, à l'affiche de Calmos de Blier et du mythique film d'Yves Robert, Un éléphant, ça trompe énormément.
C'est un film qui fonctionne beaucoup plus que son successeur, que j'adore évidemment, Nous y retournons au paradis. C'est un film qui fonctionne beaucoup plus sur le burlesque, sur le slapstick. Et Jean Rochefort, pour les gamins, il était vraiment le clown triste presque et l'Auguste à la fois en fait finalement. Mmh. Et on s'identifiait, même enfant, instinctivement à lui pour ce côté un peu loser, un peu honteux, gaffeur et en même temps emprunté.
Et en même temps élégant. Il y a une certaine,
très
il avait une certaine
élégant,
élégance
évidemment.
Avec cette moustache emblématique.
Non, évidemment, il a créé le personnage d'Étienne d'Orsay et la façon dont Rochefort l'a incarné, ça a immédiatement créé un style de personnage qui a essaimé jusqu'à sur Twitter où il y a un compte Étienne d'Orsay qui reprend
le personnage d'un éléphant. Parce que l'éléphant se trompait énormément, pour les gens qui l'ont pas vu, ça raconte l'histoire d'une bande de copains entre guillemets
quadragénaires
qui partagent des histoires ou de tromperies d'adultère avec
c'est ça il y a pas de
il y a pas tellement d'histoires
c'est ça non il y a pas de scénario
un
vraiment
film de copains, quoi.
C'est un film de copains, c'est vraiment pour moi c'est l'alpha et l'oméga du film de copains.
Et Année Lumière est disponible sur toutes les plateformes.
Attention, message à tous les parents perdus face aux habitudes numériques de leurs enfants.
Votre meilleur allié est un podcast nommé Micro-Cravate et signé Étienne Boutot qui part de ce constat, ouvrez les guillemets, dès leur premier contact avec Internet, les enfants sont exposés et particulièrement vulnérables à toutes sortes de menaces, addictions, désinformations, cyberharcèlement, personnes malveillantes. Donc tous ces sujets y sont traités et donnent de bonnes pistes de réflexion, voire de protection. Illustration en comparant la vie sur les réseaux et la vraie vie, par exemple, 50 followers sur Instagram, c'est quoi? C'est rien.
En vrai, on n'a jamais 50 amis intimes. Vous savez, 50 individus qui remplissent une salle de conférence de 100 mètres carrés dans laquelle on va raconter au micro nos histoires de couple. Sur Internet, nos paroles peuvent être entendues ou lues par le monde entier si on définit nos posts sur public. Donc 50 personnes sur près de 5 milliards d'internautes en 2021, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais c'est aussi 50 occasions de se prendre un retour de bâton.
Quelle violence aujourd'hui !
Ah, on a bien dit qu'on comparait les comportements du numérique à ceux de la vraie vie. Le cyberharcèlement, par exemple, c'est bien de la violence comme le harcèlement classique. Alors, venons-en au cœur de la question de cet épisode, smartphone ou pas ?
Smartphone pour Noël ou pas, je vous laisse trancher en écoutant les pour et les contre dans Micro-Cravate, c'est aussi dispo sur toutes les applis.
Où sont les femmes ? S'interrogeait Patrick Juvet. Chercher le garçon, c'est ce que nous proposait Taxieur. Les voici un programme qui nous invite à chercher la femme.
Et comme c'est une injonction, vous le mettrez à l'impératif. Un programme Tsugi Radio qui parle des femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Flore Benguigui s'y intéresse à des femmes et des synthés, des femmes et des basses, des femmes chefs d'orchestre, compositrices, parolières, des femmes et des batteries, des femmes et des trompettes. Et dont son dernier épisode en ligne a des femmes et des guitares. Et la tâche est ardue, comme on le comprend dès le début de l'épisode.
Alors très souvent dans ce podcast, j'ai pour habitude de commencer par un petit point chiffre. Cependant, je dois vous avouer qu'on a un petit problème sur les femmes guitaristes parce qu'il n'y a tout simplement pas de chiffres. Et encore une fois, j'ai vraiment eu du mal à trouver des noms de femmes guitaristes qui ne soient pas forcément chanteuses, mais bien guitaristes de métier. Et il faut dire que les classements n'aident pas. Par exemple, on voit très bien que le classement annuel de Rolling Stone Magazine des 100 meilleurs guitaristes recycle les mêmes noms de mecs tous les ans, avec seulement Bonnie Raitt et Joni Mitchell dans le classement de 2015. En fait, pour trouver des guitaristes femmes, il faut chercher dans les classements des meilleurs guitaristes femmes, du coup. Pratique. Mais qui fait ce genre de classement déjà, et à quel point est-il considéré par le milieu ? Pour vous donner une idée, Revolver Magazine a plutôt récemment, avec le changement de direction, abandonné son classement des guitaristes féminines qui s'appelait Hottest Chicks in Hard Rock. Voilà, je vous laisse deviner pourquoi ils ont lâché. Hein.
Il y a du boulot. Dans cet épisode, vous entendrez aussi parler d'une femme guitariste récompensée d'un Grammy Award à 90 ans, révolutionner le folk et créer un style de jeu de guitare très particulier, Elizabeth Cotton, et c'est absolument passionnant.
Merci Charline, Émilie, Lestari. Retournons dans l'arrière-cuisine de votre podcast Bouffon, juste après avoir goûté la tarte au miel des Beatles, parce que je vous propose d'écouter Honey Pie.
She was a working girl north of England way. Now she's hit the big time in the USA. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home. My position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. Yeah.
I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Come, come back to me, honey pie.
France Inter, Antoine Decaune, Popopop.
Il y a quelque chose qui m'a souvent marqué à propos des moments de repas. C'est leur pouvoir de délier les langues. Ah, comme il est bon de partager à table des plats comme des mots. Par exemple, historiquement, c'est comme ça que de nombreuses luttes sociales et syndicales sont nées. Sur un coin de table à midi, quand on s'anime devant des injustices, quand on se lie d'amitié avec ce voisin de couvert aussi, qui devient rapidement un copain au sens étymologique, celui ou celle avec qui on partage son pain. Alors, tout commencerait donc dans l'assiette.
Ça, c'était un extrait de la bande-annonce de Bouffon, le podcast de notre invitée Émilie Lestari.
Dans ce podcast, on parle de ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi de ce qui se passe autour, le vivre ensemble, le propre du repas a priori, et les jeux de pouvoir. La bouffe n'est donc pas qu'un sujet plaisir, anecdotique ou un sujet léger.
C'est vrai. C'est pour ça qu'on a ouvert d'ailleurs la saison dernière par un épisode sur les violences sexistes et sexuelles en cuisine. La gastronomie française, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN du pays. Et ça génère aussi parfois des rapports de force assez importants, notamment dans les grands palaces où on a des chefs qui sont
des
logiques
hein.
de brigade, voilà, avec la logique du coup de feu aussi. Et donc, parfois, donc, sous couvert de cette grande légitimité et du fait de devoir aller vite, eh bien, en fait, il y a des violences sexistes, sexuelles et du harcèlement moral aussi. Donc, ça fait partie des sujets qu'on traite avec Bouffon.
Bouffon est un rendez-vous hebdomadaire dédié à l'alimentation au sens large, dites-vous. Je vous cite, chaque mercredi, on explore un nouveau sujet, un ingrédient comme la coriandre, une préparation comme le flan, ou encore une question liée à notre rapport à l'alimentation. Par exemple, pourquoi mange-t-on si mal dans les hôpitaux en France? Une question qui rappelle un épisode des Inconnus.
Bon, c'est pas grave.
Alors
par contre, ça, il faudrait peut-être l'enlever, là, il a tout vomi.
Ah non, il n'a pas encore touché, là.
Et au revoir.
Bon appétit. Et bon appétit, oui. Est-ce que vous avez la réponse à cette question qu'on se pose depuis quelques années déjà, quand même? Pourquoi c'est si dégueu dans les hôpitaux?
Alors, c'est parce qu'il y a des marchés publics et que souvent, c'est les mêmes grandes entreprises qui les remportent et que les hôpitaux aujourd'hui en France sont majoritairement, pas tous, hein, mais en tout cas majoritairement, tenus de respecter énormément de normes hygiéniques qui leur, malheureusement, leur mettent un peu des bâtons dans les roues.
Des pattes.
Quand, par exemple, on a des patients qui ont des carences en vitamines, on préfère leur donner, leur administrer ça par voie de pilules supplémentaires. Ouais. Alors que dans d'autres pays, au contraire, on va se dire, bon, bah, en fait, cette personne a besoin de plus de poissons, de tel ou tel fruit, et on va adapter l'alimentation à la patientèle. Et c'est pas ce qu'on fait en France.
Et c'est un peu le même genre de problématique dans les cantines, qu'elles soient d'entreprise, qu'elles soient scolaires, c'est un vrai sujet aussi.
Oui, tout à fait. Alors quand on était tous plus jeunes, en général, on avait des cuisinières, des cuisiniers à l'école. En arrivant tôt le matin, on pouvait sentir un petit peu déjà les bonnes effluves de ce qu'on allait avoir à la cantine. Aujourd'hui, tout se passe en liaison froide, en fait, parce que les plats qu'on sert aux enfants sont en général préparés 3-4 jours à l'avance et acheminés ensuite dans les écoles.
Émilie Lestari, du bubble tea au fameux poke bowl hawaïen, vous passez toutes les tendances culinaires à la moulinette dans votre... Mais quelle est votre ligne éditoriale? Et peut-on garder la ligne, justement, avec une telle ligne éditoriale?
Oui, alors c'est sûr que j'ai un très très bon coup de fourchette et que c'est ma principale source d'inspiration, c'est soit regarder vraiment ce qu'il y a dans mon assiette, mais aussi les discussions que j'ai avec mes proches, avec mon entourage. C'est toujours énormément de sujets qui me viennent en tête. Ça m'arrive parfois même de sortir mon calepin quand on est en plein dîner avec des amis et qu'on me dise non mais là c'est pas le boulot, mais bon, de toute façon c'est j'y pense un peu constamment parce parce que j'aimais vraiment énormément manger, donc
Alors vous qui êtes vraiment à l'affût, après la burger mania, la banh mi mania, la poke mania, quelle sera la prochaine tendance?
La prochaine tendance, qu'est-ce que ça va être? Je pense que la tendance actuelle, c'est quand même beaucoup de réfléchir à l'alimentation d'un point de vue local et de aussi des bienfaits évidemment d'une alimentation sur le corps. Mais ce qu'on essaye aussi de faire avec Bouffon, c'est de surtout pas tomber dans un traitement trop donneur de leçons aussi de l'alimentation. Nous, on veut, en même temps qu'on a ces discours-là et cette compréhension de l'importance de l'alimentation pour la santé, on veut continuer aussi à parler aux gens qui vont dans les grandes et moyennes surfaces. On veut continuer à parler de local, certes, mais on veut aussi réfléchir parfois aux limites aussi que cette alimentation a. Par exemple, dans Bouffon, ça m'est arrivé quelquefois de parler avec des, notamment une femme en fait, doctorante, qui m'expliquait que les limites de son locavorisme, c'est en fait le moment où elle a quand même besoin d'acheter des ingrédients d'ailleurs pour continuer à faire les recettes sénégalaises de sa grand-mère.
Ouais. Émilie Lestari, votre but est de décloisonner, comme vous disiez il y a quelques instants, en parlant davantage, je vous cite là encore, des cuisines du monde et des anonymes qui la font dans l'ombre des chefs médiatisés ou des étoilés. Aucune chance donc d'y entendre le gagnant du prochain Top Chef.
Ou alors peut-être, mais dans ce cas, pas sur un sujet trop attendu.
Florent Laden a fait Top Chef. Il n'a pas gagné, certes, mais il a fait Top Chef.
J'avais presque oublié les frites.
Rassurons les puristes, l'intérêt pour la street food, qui n'est pas forcément de la junk food, désolé pour les anglicismes, ne signe en aucun cas la mort de la blanquette. On est d'accord?
Oui, non, non. Ce sont des univers qui peuvent cohabiter.
Avec ce podcast, vous souhaitez renouer avec le côté humain de la cuisine, parfois vu comme trop élitiste en France, dites-vous. Où vous situez-vous sur une échelle allant de Maïté à Jean Humbert?
Eh bien, cette échelle.
Est-ce que ça marche si je dis à peu près au milieu?
Oui.
Peut-être.
Peut-être à peu près au milieu.
Peut-être à peu près au milieu. Après, je pense que Bouffon, vous l'avez dit tout à l'heure, le titre en plus est amusant. Il y a quelque chose de très collectif en fait dans le fait de bouffer. Donc je ne sais pas où je me situerais sur cette ligne parce qu'en fait, Bouffon, c'est avant tout un truc collectif. C'est pas tant une personne qui propose. C'est mangeons ensemble et voyons ce qui se passe après.
Avec la lucidité d'un Jean-Pierre Coff.
Disons ça, je prends.
Et sa radicalité. Bon, de tout temps, la cuisine a fasciné la pop culture, la popote culture donc. Ça va de Ratatouille à Charlie et la chocolaterie en passant par...
Les poulets des œufs en forme de cube. Les œufs cubiques sont plus faciles à mettre en boîte. Et les poulets sans plumes. On gagne du temps, on évite de la main d'œuvre.
L'aile ou la cuisse, évidemment. Quel a été votre premier choc culinaire à l'écran, Émilie Lestari?
Choc culinaire à l'écran, j'ai beaucoup aimé le festin de Babette. Et puis peut-être tout simplement dans les dessins animés aussi.
Ratatouille.
Avant ça encore.
Dans les mangas de jeunesse qui étaient diffusés, alors vous êtes beaucoup plus jeune, mais sur TF1, la partie bouffe était une partie extrêmement importante dans ces dessins animés. On les voyait tous en train de dévorer, que ce soit des crêpes, des plats, des...
C'est vrai,
ça faisait très envie.
Vous pensez à Dragon Ball en particulier?
Par exemple.
Carrément.
Je pensais plutôt à Embrasse-moi Lucille, parce que le père faisait des crêpes. Enfin bon, bref, c'est un détail.
Bon, Émilie, je sais que vous êtes une consommatrice de podcasts, notamment quand vous cuisinez, mais est-ce que vous poussez le vice jusqu'à écouter des podcasts sur la cuisine, tout en cuisinant?
Ah oui, bien sûr, ça donne beaucoup d'inspiration.
Ah oui, ça va très loin. Donc. Et est-ce que vous conseillez à nos popopiennes et popopiens de vous écouter en cuisinant?
Oui, je pense que c'est un bon moyen d'avoir des idées. Après, voilà, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aussi en prenant le métro, comme souvent pour les podcasts. Des amis qui me disent qu'ils ont l'habitude de m'écouter sous la douche. Alors ça me fait beaucoup marrer d'imaginer qu'ils sont nus et que ma voix résonne. Donc en cuisine, ça marche très bien, mais peut-être même quelques heures avant de cuisiner, parce que ça libère l'imaginaire, ça donne des idées pour aller faire les courses.
Et ce podcast que vous animez depuis 2019, comment ça vous a permis de voir la manière dont nos assiettes ont évolué depuis?
Oui, je pense que ça donne forcément des clés, parce qu'en fait, c'est une émission dans laquelle je reçois beaucoup d'universitaires, de sociologues, de géographes, donc forcément ça... Ce qu'on voit en fait surtout, c'est que il y a ces grandes modes dont on a parlé tout à l'heure, bubble tea, pizza et autres, mais on a aussi un retour peut-être à des produits de terroir. Et je pense que ce truc-là, vraiment cette tendance-là de vouloir revaloriser un peu les espaces géographiques où naissent des spécialités, ça cohabite aussi avec un grand mouvement évidemment de mondialisation. Donc je crois que c'est vraiment l'ère de la complexité, en fait.
Bon, pop break dans ce numéro de Pop Podcast où nous recevons aujourd'hui Émilie Lestari pour parler de Bouffon, le podcast qui s'intéresse de très près à la nourriture. C'est l'heure des Pop News et spéciales, évidemment.
Et c'est d'un autre podcasteur de la galaxie pop qui jusqu'ici avait échappé à notre sagacité dont il est question aujourd'hui, erreur réparée.
Hey! Yes, it is me, your illustrious host, Macaulay Culkin, also known as Devin Sawa and Jonathan Taylor Thomas. How you guys doing?
Macaulay Culkin, ex-enfant star de Maman, j'ai raté l'avion, et aujourd'hui quarantenaire, ça ne nous rajeunit pas. Il anime Bunny Ears, c'est aussi le nom de son site humoristique très étrange qui propose articles, vidéos et donc programmes audio dans lesquels il discute de tout et de rien, et je dois dire surtout de rien, avec des invités allant du comédien Jerry O'Connell au chanteur humoriste Weird Al Yankovic. Si vous voulez vous plonger dans cette étrangeté, rendez-vous sur bunnyears.com. Un podcast musical avec de vrais morceaux de live dedans, ça s'appelle Le Quoi. Enfin, ça s'appelle The What, ça rend mieux en VO. Hein. Des analyses, des interviews par deux experts, Brad Steiner et Barry Courter. Et aussi des sessions musicales, comme celle il y a quelques jours de l'excellent groupe War on Drugs. The War on Drugs et beaucoup d'autres à retrouver dans The What sur thewhatpodcast.com.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Hey, it's me.
Macaulay Culkin.
Bah oui, ouais. Mais tellement facile alors aujourd'hui, ça
bah
va.
Oui.
Bon, merci quand même, Charline. Émilie Lestari, dans la suite de Pop Podcast, nous parlerons de podcast, mais aussi de podcast. Et ce sera juste après une sucrerie italienne signée Phoenix Tutti Frutti.
I'm
Phoenix Parfum Tutti Frutti, c'était extrait de l'album Ti Amo. Vous écoutez Pop Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Mais oui, mes feuilles s'envolent. Mais c'est donc, c'est lui qui rentre dans ce studio. Mais oui, c'est Cosmo, c'est Cosmo Flash. Posez-vous, Cosmo. Bonjour, Cosmo Flash.
Bonjour Antoine, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Entrez en fanfare.
Oui, comme d'hab. Cette semaine, pour rester dans le thème, je vous fais découvrir le meilleur podcast sur le bœuf et les produits laitiers. Ça nous vient tout droit du pays de la gastronomie, je veux dire le Royaume-Uni.
Mmh. Comment ça s'appelle ce podcast en VO? Pour une fois, je vous pose la question dans l'autre sens. Là.
Ouais. C'est The Beef and Dairy Network en anglais et c'est le podcast mensuel numéro 1. Pour tous celles et ceux qui sont impliqués ou simplement intéressés par la production d'animaux de boucherie ou de troupeaux laitiers. Et sans attendre, je vous lance l'intro.
The Beef and Dairy Network podcast is sponsored by Grazax, the latest grass replacement pellet from Mitchell's. If it's not Mitchell's, get back in the truck.
Attendez, désolé, c'était une pub pour les granules de pâturage au début de l'épisode. Est-ce qu'en régie, vous pouvez mettre le bon extrait, s'il vous plaît?
The Beef and Dairy Network podcast is the podcast companion to the Beef and Dairy Network website and printed magazine, brought to you by GrazeX. They've actually sent us a box of GrazeX, and it's going down quite well in the office. It's quite tough to chew on, but once you warm it gently in milk and salt it slightly, it creates a really satisfying warm cornmeal.
Voilà, donc là c'est Benjamin Partridge, le présentateur, et il nous explique que la rédaction du podcast est en fait très fan de cette herbe de pâturage en granules, même si elle est un peu dure sous la dent, qu'il faut rajouter du lait et du sel pour que ce soit acceptable. Ils ont l'air vraiment passionnés d'agriculture dans cette émission.
Cosmoflash, vous pensiez un jour parler d'herbe et de pâturage d'ici dans cette émission?
Non, c'était vraiment pas prévu, c'est très très étrange. Bon, si vous l'aviez pas compris, le Beef and Dairy Network, c'est vraiment un podcast complètement parodique.
Mais bien sûr.
Le présentateur nous partage tout au long du podcast des actualités surréalistes sur le monde des produits laitiers, des prévisions anecdotiques sur le marché du bœuf, des informations totalement inutiles sur les industries de la viande et du lait. Et tout ça sur un ton parfaitement sérieux, oui, et forcément. C'est même un peu inquiétant par moments. Et même pour aller au bout de la blague, il fait venir des experts et autres invités spéciaux pour discuter dans chaque épisode de sujets aussi bizarres que la possibilité de trouver des empreintes de bovins sur Mars ou la manière de traiter les adolescents rebelles qui insistent pour manger de l'agneau.
Attendez, peut-on trouver des empreintes de bovins sur Mars et que faire de nos ados rebelles qui insistent pour manger de l'agneau? Répondez aux vraies questions, s'il vous plaît.
Non. Je laisserai nos auditeurs découvrir par eux-mêmes les réponses à ces questions. J'ai plutôt, moi, vous parler de mon épisode préféré avec mon invité préféré, c'est le professeur James Harcombe, un historien des bovins et auteur d'un ouvrage un peu bizarre sur l'histoire militaire des vaches. Voilà. Et en substance, il nous explique que pendant des siècles, ce sont les vaches qui ont accompagné les humains sur les champs de bataille et pas les chevaux.
Bien sûr.
En fait, les chevaux ont été inventés dans les années 60. Mm-hmm. Et jusque-là, les armées devaient se contenter du bétail.
If the horse didn't exist at all, in nature even, am I right in saying that?
It's a romanticized vision.
How is it now that we have a horse? Where did that come from?
I mean, they were bred for pleasure, originally in Japan, I believe, after the war. And again, it becomes something of a fad in the mid-60s.
So when you say bred from what? From cows?
Yes, from a mixture of cow, rabbit, DNA, spliced with dolphin semen.
Qu'est-ce qu'il dit?
Voilà, donc sa théorie, c'est que les chevaux ont été donc inventés juste après la guerre au Japon pour le simple plaisir d'inventer un nouvel animal. Et selon le professeur, ils sont un mélange entre une vache, donc un lapin et même un peu de semence de dauphin.
Alors attendez, Cosmo Flash, mettons un peu de précision dans cette chronique. Une vache, un lapin, un peu de semence de dauphin. Ce que vous venez de dire.
Oui, exactement. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, Antoine. Encore selon ce professeur, les historiens modernes ont en quelque sorte fait du horsewashing de l'histoire et ont tout fait pour faire oublier le rôle héroïque du bétail dans la victoire de 1918.
The cavalry charges of the First World War, of the Boer War, these are cattle. Sometimes they're camels. Very rare occasions they are plucky sheep. Again, if we look into the records, obviously you take the livestock you can where you can. For the New Zealand contingent in the First World War, fighting at Gallipoli, that was sheep. And that is why they died in such huge numbers.
qu'est-ce qu'il dit?
Le professeur nous explique donc que les charges de cavalerie de la Première Guerre mondiale se faisaient effectivement à dos de bovins. Parfois, c'était même des chameaux et, en de très rares occasions, des moutons très courageux. Mmh.
Cosmo, cette chronique n'ayant absolument aucun sens, j'ajoute ma contribution. Quel est le comble du mouton?
Je sais pas.
Ben, avoir mauvaise haleine.
Ouais, je vais continuer. Donc dans le podcast, on découvre aussi les intrigues d'un homme qui dirige un cirque de vaches, une théorie du complot complètement folle autour de l'existence d'une cinquième viande, et ainsi que des personnages récurrents. C'est le cas du controversé propriétaire d'abattoir et chef de secte, Eli Roberts, que je vous laisserai également découvrir en écoutant le podcast.
Alain Mouton.
Oui. Non,
okay. J'ai mis un peu de temps à comprendre aussi, mais c'est venu.
Une fois pour là.
Voilà, donc le Beef and Dairy Network podcast, c'est vraiment l'une des meilleures comédies audio en anglais. C'est très bien écrit, avec un humour pince sans rire, so british, et des invités farfelus, bien évidemment joués par des acteurs. Et ce savant mélange donne vraiment l'impression d'être coincé dans une sorte d'épisode de The Office, dans lequel Michael Scott serait devenu passionné de bétail.
Merci Cosmo Flash, alias Thomas Biet. Si, mais oh, mais il est déjà reparti là, mais je le crois pas. Il est déjà reparti, il a déjà requitté ce studio.
Ouais. Oh. Je crois qu'il s'appelle Thomas Biet. Si, vous avez dû le vexer, c'est pour ça.
Ouais, mais j'aime bien Biatchi, ça le fait partir plus vite. Émilie Lestari, vous avez été convaincue par cette chronique?
Oui, merveilleux. Oui, ça me donne envie d'en savoir plus sur ce podcast, enfin de l'écouter tout simplement.
Et sur les bovins en général.
Ouais.
Bon, ce sera à votre tour de nous conseiller un podcast juste après le dessert. Je vous propose justement un peu de Bonnie Banane à la sauce québécoise. C'est une sucrerie servie par Hubert Lenoir. Ça s'appelle Octambre. Et je vous propose de la goûter tout de suite.
Pourquoi l'accent belge?
Ah, il est belge. D'accord.
Change ce temps, entendre, je veux que
Octobre dans Pop-Up Podcast, c'est un morceau signé Hubert Lenoir featuring Bonnie Banane. Émilie Lestari, vous le savez peut-être pas, mais ici nous avons une chronique qui s'appelle le podcast. C'est-à-dire le podcast que l'on conseille à un ami, en référence évidemment au coup de fil à un ami de Jean-Pierre Foucault, Jingle. Et votre recommandation, Émilie, c'est les Baladeurs. C'est un podcast d'aventure et de mésaventure en pleine nature. Ambiance.
Alors là, on est en novembre 2016 et j'ai un ami qui vient me dire « Ah, il y aurait probablement un loup qui se balade sur le massif. Quelqu'un l'aurait vu. Waouh, ok. Bon, quelqu'un a vu un loup, alors ça déjà c'est quelque chose de fou pour moi, même si je n'aurais pas nécessairement cette volonté de le voir à tout prix. Et donc voilà, quand cette rumeur vient à mon oreille, je réalise que c'est quelque chose de concret, que je vis quelque chose aussi d'historique. »
Et Émilie Lestari, cet épisode des Baladeurs, vous l'avez précisément écouté, il s'agissait d'une rumeur sur le retour du loup dans les Alpes françaises.
Voilà, c'est ça.
Expliquez-nous.
Dans un village des Hautes-Alpes, et donc ça donne envie du coup à cette femme d'enquêter. Les Baladeurs, c'est un podcast qui permet vraiment de partir à l'aventure avec les gens et, comme vous l'avez dit, aussi de suivre parfois leurs mésaventures. Mmh. Et ça s'écoute très bien en étoile de mer allongée dans son lit, parce qu'on a vraiment l'impression d'être avec eux. On peut suivre donc du coup cette traque du loup. On peut se balader dans la forêt amazonienne. On part avec des explorateurs sur la banquise. Voir aussi ce que ça fait que de passer une nuit entière le long d'une paroi d'escalade à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Mmh. C'est assez merveilleux, ouais, comme podcast.
Bah vous m'avez donné envie de me mettre en étoile de mer sur mon lit. Les Baladeurs, c'est donc le podcast conseillé par Émilie Lestari. Merci Émilie. Bouffon, votre podcast à vous, il est à retrouver chaque mercredi. Il est évidemment recommandé par Pop-Up Podcast. Merci Charline.
On va manger des frites maintenant.
Bah évidemment qu'on va manger des frites avec de la sauce samouraï à lundi. Et merci à toute l'équipe de Pop-Up et à Gilles Gaillard qui était à la technique aujourd'hui. Lundi dans l'émission, Philippe Manœuvre vient popper en notre compagnie. Mais avant lundi, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop-Up.